Courant porteur. Initiative et résilience d'un territoire.
Un temps pour découvrir des personnes, des projets et dynamiques qui se passent maintenant et à côté de chez vous.
Un temps pour décrypter des sujets de fond, comprendre et donner du sens.
Une émission mensuelle présentée par Elisabeth Lucan et Ludovic Jiquel, cofondateurs de Sonessence.
Une association qui accompagne la création d'entreprises dans le Val-de-Saône. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Caladma Radio. Bonjour Ludovic.
Bonjour Elisabeth.
Alors, qu'est-ce qu'on a au sommaire de notre émission aujourd'hui ? Nous accueillons déjà Benjamin Jaïr. Bonjour Benjamin.
Bonjour Elisabeth, bonjour Ludo.
Salut.
Alors, Benjamin va nous parler de lui et de son activité. Il est permaculteur, il accompagne également en forêt autour d'un lieu magique dans le Beaujolais Vert et accompagne la création d'entreprises, les projets, la réorientation. Et également, il parle de rencontres magnifiques et donc il nous en parlera un peu plus juste après. Et dans la deuxième partie de l'émission, la partie savoir, aujourd'hui, nous abordons un incontournable de la création d'entreprises, le modèle économique. Benjamin, on commence avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Qui es-tu ?
Oui, je peux vous parler de moi. Donc, je suis Benjamin Jaïr. Je suis né en Calade, voilà, il y a quelques décennies. J'ai grandi entre la campagne et la ville, puisque je suis resté très ancré et très attaché à ma famille rurale, donc dans la vallée d'Azergue. Et une famille rurale, agricole, qui vivait un petit peu à l'ancienne, comme dans les années 80-90, donc encore avec un peu de travail à la ferme, un peu de travail à l'usine ou pour faire des ménages, par exemple, pour ma grand-mère. Donc un vrai mélange de société moderne et traditionnelle, et puis des parents qui sont allés très vite après leurs études à Villefranche pour travailler plutôt à l'usine. Donc voilà, ça a été un petit peu ça, mes premiers pas, ma première jeunesse en tout cas.
Et ton parcours alors, après la Calade, on a un vrai Caladois aujourd'hui.
Ouais, vrai de vrai. Un vrai Caladois qui du coup est resté à l'école dans le secteur. J'ai fait mon collège donc à Villefranche, au collège Faubert, donc ceux qui sont du coin reconnaîtront. Et puis ensuite, eh bien... Tout s'est pas forcément passé comme prévu, puisque je suis allé au lycée, mais j'y suis pas resté très longtemps. J'ai fait d'autres choix, en tout cas. J'ai commencé à réfléchir à d'autres projets, à d'autres choses pour moi. Et donc, finalement, je suis pas resté au lycée. J'avais commencé au collège l'animation. J'étais devenu aide-animateur dans le centre aéré local aussi, le centre aéré de Pommiers, et au service jeunesse de Villefranche. Et j'ai commencé à rencontrer les autres. J'ai commencé à rencontrer la jeunesse qui était autour de moi, qui n'était pas forcément la même jeunesse, qui ne vivait pas forcément de la même manière. J'ai rencontré aussi le handicap avec de l'aide animation dans la région de Tarare, donc juste à côté, sur un public malvoyant. Ça m'a amené énormément de choses, je pense, en tout cas, pour la suite. Et du coup, j'ai commencé à peut-être un petit peu trop réfléchir pour un jeune de 15, 16, 17 ans. Et je me suis dit qu'effectivement, il y avait peut-être une autre voie que les études et que ces bataillons de jeunes rangés deux par deux dans les classes des lycées français. En tout cas, c'était mon avis à ce moment-là. Ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Ce n'était pas forcément l'avis de tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je me suis retrouvé très rapidement à Lyon. Rencontrer le commerce à travers un BEP, à l'époque ça existait encore, CAP BEP, commerce, parce qu'il me fallait un peu une voie de garage pour rester quand même scolarisé. Et là, ça a été changement de vie, puisque passer de Villefranche et Grand-Ry dans la vallée d'Azergue à Lyon, où j'étais allé pour la première fois de ma vie à 14 ans en train, et bien du coup, ça change pas mal de choses. Donc je me suis retrouvé dans un institut privé de commerce à Lyon, et puis j'ai commencé à faire des stages un petit peu à droite à gauche dans des grands magasins, ceux de Lapardieu et autres. Et donc, du coup, j'ai continué ensuite dans cette dynamique lyonnaise à rencontrer du monde et surtout à tomber sur une petite annonce un jour qui avait été posée à l'étage de l'institut de formation où j'étais, qui formait au BEP sanitaire et social, donc plutôt l'aide à la personne, une première approche des aides-soignantes, des infirmières, préparation au concours. Et il y avait une petite affiche qui disait recherche animateur bénévole pour accompagner de jeunes infirmes moteurs cérébraux à La Duchère, un quartier de Lyon, quartier, voilà, un lieu qui était un petit peu, laissé à lui-même sur les plateaux au-dessus de Vaise, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Et donc, du coup, là, l'idée, ça a été de participer à une réunion d'information un soir avec quelques élèves, justement, de la partie sanitaire et sociale, et de comprendre qu'il y avait des besoins pour accompagner le week-end de jeunes infirmes en fauteuil roulant, très, très lourdement handicapés, que les parents ne pouvaient plus accompagner, soit à cause de leur âge, soit à cause de leurs moyens, soit aussi pour respirer un petit peu, parce qu'avoir un enfant porteur de handicap lourd, c'est pas forcément évident, surtout quand il y a des petits frères, des petites sœurs ou d'autres enfants dans la fratrie. Donc du coup, je me suis retrouvé à adhérer à cette association et à dire « ouais, ok, j'y vais ». Donc finalement, les week-ends, j'ai commencé à participer à ces animations. Donc en général, on avait à disposition un véhicule adapté, donc ces véhicules avec une rampe à l'arrière pour faire monter les fauteuils roulants. Et on partait en week-end, alors au parc de la Tête d'Or, Gerland, dans des petits endroits pas très très loin forcément, jusqu'à ce que, à force d'aller un petit peu fréquenter ces jeunes-là, je passe mon permis et je deviens un petit peu plus autonome, donc tout en continuant mon école de commerce, comme j'aime à l'appeler. Et du coup, je me suis retrouvé confronté au départ de l'animateur en chef de ce groupe et qui m'a dit « Écoute, Benjamin, tiens, je te laisse le bébé parce que tu as ton permis maintenant, tu peux conduire les camions, faut y aller, quoi. »
Et du coup, tu t'es retrouvé avec encore plus de responsabilités.
Encore des bonnes premières grosses responsabilités, effectivement. Donc là, j'ai créé un groupe qui s'appelait Loisirs Ados. Et du coup, j'ai monté un programme. Et au lieu d'aller passer le week-end ou la journée visiter le parc de la Tête d'Or en fauteuil roulant, et finalement, ça s'est transformé en tout autre chose, puisqu'on est plutôt allé faire du parapente, on est plutôt allé faire des trucs un peu de fou malade. Et c'était génial, parce que ça sortait vraiment les enfants du contexte, et puis les animateurs aussi.
Et je crois qu'en parallèle, tu faisais beaucoup de musique.
Alors, beaucoup. Je faisais du bruit, beaucoup de bruit, ouais, c'est ça. parce que on avait un groupe de musique avec les copains sur Villefranche. Et puis surtout, on avait commencé à fédérer les groupes de musique de garage et de cave de Villefranche et des alentours en vue de créer une SMAC, une scène de musique actuelle sur Villefranche. Un projet qui n'est pas forcément passé au niveau de la municipalité de l'époque. Mais qui, du coup, nous a bien rassemblés, nous a bien regroupés autour de la musique à ce moment-là. Ouais.
Et en juin 95, les gendarmes sont arrivés. Alors, pas pour ce qu'on imagine.
C'est vrai. Non, on n'imaginait rien, surtout. Ils sont arrivés tout gentiment, d'abord en laissant un courrier chez mes parents. Et ensuite, en me convoquant à la Part-Dieu. À l'époque, les bureaux de recrutement de l'armée étaient à la Part-Dieu, puisque ça me disait cette petite missive que du coup je devais intégrer l'armée, passer sous les drapeaux, puisque j'avais pas forcément fait les papiers qu'il fallait
pour faire ton service militaire,
pour faire ou ne pas faire. Voilà, j'aurais pu faire les bons papiers au bon moment pour être objecteur de conscience notamment, c'était un petit peu la voie que j'envisageais, mais là j'avais plus le temps de réfléchir et de poser de questions. Donc du coup, hop, de juin à septembre, c'était fait, j'étais dans les tuyaux.
C'était une autre époque.
Ah, c'était une autre époque, ça allait assez vite. Ouais. Et donc je me suis retrouvé le 5 septembre 1995, donc ce qu'on appelle le contingent 09-95. Je me suis retrouvé à Évreux, voilà, c'était pluvieux, mais c'était sympathique. Mais je ne suis pas resté longtemps à Évreux, puisque du coup j'ai été un peu puni, on m'a mis à Évreux parce qu'on mettait tous ceux qui n'avaient pas vraiment d'avenir dans l'armée, donc on les mettait à Évreux pour être fusillés commando. Alors ce n'est pas nous qui étions fusillés, c'était pour porter le fusil pour faire la surveillance des bases militaires de jour comme de nuit, donc marcher autour des barbelés pour éviter que les gens viennent prendre des photos ou visitent les bases. Voilà.
Mais t'es pas resté rester là.
Je peux rester. Je suis daltonien et ça m'a sauvé la vie, puisque les armes et moi, c'était pas possible. Donc, ce qui était quand même une belle victoire, parce que effectivement, je luttais déjà un petit peu contre les armes. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à faire un service militaire purement social et à aider des jeunes gens sortis de prison, tout en passant tous mes permis de conduire, en devenant chauffeur. Et là, ça a été vraiment une belle expérience humaine, en tout cas.
Des rencontres encore.
Ouais.
T'es rentré, finalement. Et qu'est-ce que tu as fait ?
Ben, ils m'ont pas gardé au bout de 10 mois, donc je suis parti et je me suis retrouvé donc à Lyon de nouveau, puisque j'avais moi un appartement, j'avais gardé mon appartement, j'avais accueilli pas mal de monde dans cet appartement. Et donc du coup, je me suis retrouvé à travailler sur Lyon, à passer un bac pro aussi en même temps, à continuer l'association pour le handicap et à être responsable du bureau des étudiants. Donc j'avais une vie... bien active sur la place lyonnaise. Et là, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. La gestion de soirée, l'organisation de projets, la gestion de responsabilité, parce que partir en camion avec une dizaine d'enfants porteurs de handicap, créer des petites associations en parallèle, etc. Donc là, ça a été vraiment moteur et une belle période de ma vie, malgré les difficultés physiques et morales, parce que il fallait porter tout ça quoi, à 20 ans.
Est-ce que tu peux nous résumer la suite ? Parce qu'on pourrait faire une émission complète sur ton parcours, tellement il est riche.
Ouais, la suite, c'est que je rencontre un jeune Sénégalais, je passe mon bac, ma grand-mère maternelle décède, j'étais en Espagne, je remonte en stop, je me dis que là, c'est plus possible. Et du coup, je donne ma démission dans le boulot que j'avais à la Part-Dieu comme vendeur de valises. Et du coup, je me retrouve 2 mois après avec un billet d'avion, open à l'époque, on appelait ça. C'était un billet d'avion sans retour. Mes copains m'organisent une super soirée le soir de mon départ. Et ils collectent, avec tous les copains, ils collectent, je crois, entre 3 et 5 000 francs à l'époque. Alors que je partais sans rien avec mon billet d'avion et une adresse en fait à Dakar. Et une valise jaune décorée par un pote futur tatoueur. Et donc, du coup, je me retrouve dans l'avion, j'atterris à Dakar. Et là, je commence ma nouvelle vie en Afrique, puisque je me retrouve dans une chambre d'un HLM de Dakar. Et je partage un lit avec 3 autres personnes. Donc, on est 4 dans un lit 2 places, dans une chambre de HLM. Et je suis accueilli comme un roi par la famille du copain de mon frère que j'avais rencontré à Lyon, Tala Dia. Et donc, c'est parti. Là, je lance un peu l'aventure africaine, quoi. Donc, micro-projet, élevage de poulets dans les quartiers HLM, aide aux devoirs pour les enfants atteints de polio. Et puis, je pars à droite à gauche en laissant ma valise là-bas. Je pars en Mauritanie, je pars au Mali, je pars en Guinée, je passe par les routes de la contrebande, je fais des pèlerinages musulmans, où je suis le seul blanc, comme ça, au milieu de nulle part, en plein désert. Donc, une grosse, grosse, grosse expérience à ce niveau-là. Beaucoup d'apprentissage aussi, hein, humain, et puis tout, quoi. Tout. Sur moi, beaucoup d'apprentissage sur moi, parce que des grandes peurs, quand même.
Est-ce que tu reviens en France, à un moment donné ?
Ouais, je reviens 6 mois après, tout maigre.
Tu sors 6 mois,
ouais.
D'accord.
Ouais. J'avance, moi, je suis un peu un bulldozer. Et du coup, je reviens 6 mois après. Je trouve la mère d'une copine qui me dit « Ah bah tiens, on cherche des animateurs à l'ANPE pour s'occuper des jeunes toxicos qui sont pas à leur place ici, les jeunes qui galèrent, etc. Viens. » Donc j'y suis allé et puis j'ai été embauché tout de suite. Et je me rappelle, le jour de l'entretien, j'avais un parterre devant moi, quoi. Ils n'étaient pas parterre, mais de directeur de Pôle emploi, d'ANPE à l'époque. Et je leur ai parlé de mes élevages de poulets à Dakar. Ça a été magnifique. Et donc ils m'ont dit, allez, c'est bon, tu viens lundi, tu commences. Et puis après, j'ai commencé mon travail. J'ai aidé pas mal de gens jusqu'à en héberger dans la cave de l'ANPE. Ça n'a pas plu à tout le monde.
Non, mais...
Et voilà, j'ai passé mes grades. Je suis devenu conseiller. Je suis allé travailler en Ardèche. C'est là que j'ai rencontré Pierre Rabhi, José Bové. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle du militantisme, du syndicalisme. Et je suis devenu ce qu'on appelait à l'époque, ça n'existe plus trop maintenant, mais il y a d'autres termes, je suis devenu altermondialiste, avec des gros groupements comme ATTAC, la Confédération Paysanne, etc. Donc j'étais à bonne école parce que faire des réunions avec José Bové, quand il vient de cramer un McDo et d'aller après sur place au procès, etc., puis faire des grands camps à 200 000 personnes avec Manu Chao, Pierre Rabhi, à 20, 25 ans, c'était vraiment pas mal, quoi. Voilà, ça fait du bien, en tout cas.
Parce que là, t'as encore que 25 ans, c'est ça?
Bah ouais, je crois, parce que là, c'est en 2000. Ouais, non, on n'est pas arrivé au bout. Alors après, il y a 20 ans de Pôle emploi, bon, voilà, c'est bon.
Il y a 20 ans, il y a 20 ans.
Là, il y a 20 ans de Pôle emploi, mission locale, prison, handicap.
Non, t'es pas allé en prison,
Ah non, moi, je suis pas allé en prison. J'ai accompagné des jeunes en sortie de prison, quoi. J'ai fait des trucs magnifiques parce que j'ai jamais pu être dans une case. Vous l'avez compris. Et donc, du coup, même à Pôle emploi, voilà, j'avais des missions un peu toutes particulières, ce qui était quand même super intéressant.
Est-ce que... Mm-hmm. Ouais, Marie, t'as pas fini, en fait.
Bon, parce presque.
Que... Ouais, après, il y a un magasin d'alimentation, c'est ça,
oui,
ou j'ai raté une case?
Non, tu rates rien, parce que Macron est arrivé. Il nous a proposé de retirer pratiquement toutes les aides dans les gros dossiers où j'étais, les contrats aidés, etc. Et puis là, à ce moment-là, une amie, Marjorie, que j'avais emmenée en Afrique quelque temps avant, bah, m'a débauché en me disant « Écoute, moi, je fatigue un peu, j'ai besoin de toi pour la relève au niveau du magasin. » Donc j'ai été responsable d'un magasin bio spécialisé, donc du coup indépendant sur Villefranche, Saveur Nature. Et du coup, bah, pendant 5 ans, en plein Covid, donc ça a été aussi une expérience humaine super riche. Et puis un gros travail avec les petits producteurs. J'ai vraiment pu renouer avec cette partie agricole qui me manquait aussi pas mal, puisque j'avais repris une formation, j'avais redémarré en 2015 des formations, des modules en permaculture. Et voilà, j'accrochais, ça amenait du vrai, du concret, quoi. Voilà.
Comme si tu n'avais pas fait assez de terrain, il y a la ferme Oasis, c'est ça?
Ben oui, qui
t'appelle aussi.
Ben oui. Fanny, que je remercie encore, avec son petit bidou tout rond, me dit « Bah écoute, Benjamin, j'étais en Afrique à ce moment-là, elle m'a appelé, c'était en juillet 2024, elle me dit « Écoute, faut que tu me remplaces pendant que je mets au monde mon bébé. » Et du coup, eh bien, je l'ai remplacé, ça a duré 1 an et demi. Et là, du coup, j'ai pu accompagner de jeunes migrants, principalement, dans une structure magnifique, l'Oasis à Glaizé, à côté de Villefranche, un OACAS, une structure d'insertion. Et là, du coup, sur la partie agricole, avec Sébastien, l'encadrant du secteur agricole, et moi, plus particulièrement, axé sur le maraîchage sur sol vivant. Donc encore une technique vraiment, vraiment intéressante. Et puis les animaux, les chèvres, les moutons, donc ça m'a rappelé vraiment mon enfance. Parce que moi, mon premier boulot à 8 ans, c'était de vendre des fromages de chèvre sur le marché à Grand Ry. Donc voilà, là, je revenais un petit peu 40 ans après, retour aux sources.
Super. On bascule sur la question suivante, qui est justement le point de bascule. Je pense que tu en as déjà dit, mais est-ce que tu pourrais revenir sur un point de bascule qui t'a fait t'engager dans ce projet pro, projet de vie?
Pour moi, le point de bascule, c'est 2015. C'est un burn-out suite ou en même temps, ou à cause, ou en tout cas d'un souci médical au niveau du palpitant. Je me suis retrouvé vraiment faible, vraiment affaibli. Donc du coup, j'ai passé tous les examens au niveau du cardio. Et effectivement, il y a une insuffisance, il y a un problème d'aorte, etc. Ma vie allait quand même assez vite aussi. Je retapais une ferme dans le Beaujolais avec ma famille depuis 2 ans. Toujours les projets en Afrique. Et du coup, là, j'ai vraiment eu besoin de lâcher au niveau du boulot. Donc j'ai complètement lâché. Ça a duré pratiquement 3 mois. Et ça m'a fait poser beaucoup de questions. Et c'est là que j'ai commencé les formations en permaculture, à la Source Dorée, à l'Arbrel, quoi, à côté de l'Arbrel, avec vraiment une découverte, en tout cas. J'avais découvert pas mal de trucs. J'avais découvert la communication non-violente. J'avais découvert vraiment l'agroforesterie en Afrique. J'ai planté énormément d'arbres. Je ne sais pas combien d'arbres j'ai planté dans ma vie, mais c'est quelque chose d'énorme, avec des groupements de femmes. Et là, du coup, il y avait des mots, il y avait du sens, et ça tournait correctement. Il y a vraiment ce triangle de la permaculture là, qui m'a marqué. Je pourrais me le faire tatouer, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose de marquant, ouais, effectivement. Mais j'ai plus de place pour me faire tatouer. Bon, voilà. Donc, ça a été ça, ouais, le point de bascule, en tout cas, la bifurcation.
Et est-ce qu'il y a un rêve à l'origine de ton engagement ?
Bah oui, mon rêve, moi, ça a toujours été, ce que j'ai exprimé tout à l'heure, ce retour aux sources. Je me rappelle avec mon copain Fred qui m'a beaucoup accompagné lors de mes premiers séjours en Afrique en restant là, lui. Mais en tout cas, on a beaucoup échangé, il m'a beaucoup soutenu parce que c'était des voyages très compliqués à l'époque, sans internet, sans téléphone. Notre rêve, c'était, bah déjà, on allait régulièrement au col de Saint-Bonnet, au-dessus de Mont-Blanc, au-dessus de Villefranche, là, entre la vallée d'Azergues et Villefranche, la vallée de la Saône. Et puis on se posait, on faisait des petits feux comme ça, et on se disait que ce serait bien quand même qu'on ait une ferme avec des chèvres, parce que c'était un peu notre... On avait loupé un peu le coche de mai 68, nous, voilà, on était un peu en décalé, on est arrivé juste un poil trop tard.
Les genoux.
Voilà. Et donc du coup, eh ben, finalement, aujourd'hui, j'habite à 2 km de la chapelle de Saint-Bonnet, et j'ai eu des chèvres, je suis en train de retaper une ferme. Donc voilà, c'était ça le rêve, quoi, et je touche là.
Est-ce que tu es prêt à nous présenter un mini pitch de ton projet d'aujourd'hui ?
Ah bah mini, oui, mais je peux vous présenter
à ta hauteur,
un
parce que
pitch.
Vu te connaissant. Non mais mini parce que court, en temps.
Court, ouais, un pitch, quoi. 3 minutes, c'est possible.
Yeah, allez.
Ouais. Bah, alors déjà, bah, je vais le faire un peu en plus court, effectivement. Je vais peut-être le faire en moins lu, même si je peux quand même parler de chiffres pour commencer, parce que pour moi, le nombre de burn-out en France qui touche là, entre le burn-out, le stress... La perte de sens au travail, 50% des salariés, bah c'est quelque chose d'assez énorme. Donc là, il y a vraiment une vraie souffrance au travail. Et c'est du coup, d'ailleurs, au niveau santé mentale, vraiment depuis 2024, surtout 2025 et reconduit en 2026, une préoccupation nationale que de travailler sur la santé mentale. Et aujourd'hui, effectivement, on connaît, je pense, tous, quelqu'un dans notre entourage qui en tout cas a des difficultés dans le cadre de son travail de cet ordre-là. Il y a des propositions, il y a des choses qui sont proposées, souvent de nature un peu chimique, hein, des cures d'antidépresseurs, ou alors des séjours, hein, un petit peu type cure de sommeil ou autre, mais qui, à mon avis, ne font pas tout. Et donc, du coup, bah, là, l'idée, comme beaucoup l'ont d'ailleurs dans d'autres domaines, bah, c'est de prendre soin des gens et de se positionner sur ce qu'on pourrait appeler le ressourcement, d'une manière un peu générale. Donc moi, mon idée, mon projet, en tout cas, c'est parce qu'il y a cette mise en avant, cette volonté des gens, je pense, à travers le burn-out, parce que, comme je le disais tout à l'heure pour moi, je ne sais pas encore si c'est la maladie qui amène le burn-out ou le burn-out qui a amené la maladie ou le travail. Il y a quand même là tout un truc à croiser, à décroiser. En tout cas, besoin de se ressourcer, ça devient une évidence. Prendre du temps pour soi, respirer pour exister. Le mot exister, on n'en parle pas assez, mais il a vraiment une vraie force. Participer en conscience à des activités riches et en harmonie avec la nature. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je souhaite apporter, c'est la nature, voilà, pour tout simplement vivre mieux. Il y a une offre autour de ça, c'est des temps de ressourcement, des temps d'échange, des temps d'apprentissage au cœur de la nature. Ça peut être seul, ça peut être en groupe, et c'est ça que je veux développer autour de la rencontre, autour de l'individu, de sa propre rencontre, de se rencontrer soi-même. Ça peut être pour des publics spécifiques. Alors, j'ai beaucoup d'expérience avec le handicap, mais aussi dans le social, donc ça veut dire des séjours qu'on appelle souvent séjours de rupture, par exemple, en individuel ou en collectif, sous forme de prestations, sous forme de stages, sous forme d'activités, et donc forcément sous forme d'un calendrier établi sur l'année. Et le tout dans un lieu où on pourrait aussi manger ce qu'on produit, manger ce qu'on cultive, et là, du coup, intervient un petit peu plus la permaculture au quotidien, puisque d'être dans ce lieu, ça veut dire manger ce que ce lieu offre. Donc ça veut dire s'en occuper. Effectivement, s'il y a des animaux et qu'on vient se ressourcer, le top, c'est aussi de participer à la vie avec les animaux. S'il y a un jardin, c'est la même chose. Si on a besoin de se chauffer l'hiver, on ramasse du bois. Voilà. Et puis, c'est aussi d'exporter la permaculture à droite à gauche. Alors, le droite à gauche, c'est les habitats partagés, où depuis déjà 4 ou 5 ans, j'interviens dans certains, notamment celui du Péréon, qu'on commence à bien connaître là, sur la région de Villefranche. Mais il y en a d'autres tout autour de Lyon, Vienne, Francheville, etc. Puis les communes, comme Rivolet, où j'ai refait toute l'entrée de Rivolet, tout le parc, avec les villageois pendant 3 ans. et les écoles, où là, il y a beaucoup de petits projets avec les écoles, et prochainement avec le contrat ville de Villefranche sur le quartier notamment de Bellimy, voilà, qui est bien connu aussi des Caladois. Voilà, donc profiter un petit peu de ce positionnement dans le Beaujolais vert, dans cette forêt, et puis exporter mes savoirs, mes compétences autour de tout ça. Et sans oublier mon cœur de métier quand même, qui est l'accompagnement des individus, l'accompagnement de chacun, parce qu'aujourd'hui j'ai une expertise assez large dans les métiers, j'en connais beaucoup de métiers, j'en ai fait quelques-uns, mais en tout cas j'ai reçu énormément de personnes, j'ai rencontré énormément de chefs d'entreprise, et je vois aussi dans le projet de chacun ben, que par le travail, par la reconstruction autour de son propre projet, autour de son propre travail, son emploi métier, eh bien il y a quelque chose d'évident, et là du coup voilà, je suis vraiment dans cette direction d'accompagner au projet, réorientation et création d'entreprise. Voilà à peu près. Ça va le petit pitch en quelques minutes? C'était peut-être pas très fluide. Hein, mais...
Je ne sais pas si c'était 3 minutes, mais écoute, si. Il était super.
On est bon.
Qu'est-ce qui t'anime dans l'écosystème local?
Ah, l'écosystème local.
Tu vas me dire la rencontre.
Ouais, pour moi, tout commence sur la rencontre et tout continue sur la rencontre. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une partie dans l'écosystème local pour moi qui est géographique, donc qui est quelque chose de l'ordre de vallées qui se reconnectent, etc. Et il y a quelque chose d'autre qui est beaucoup plus humain, qui est beaucoup plus proche du sociétal, qui est vraiment cette constellation d'individus qui se croisent, parce que moi je fais que croiser des personnes qui finalement connaissent d'autres personnes, il y a des mises en lien un petit peu tout le temps, il y a la possibilité aujourd'hui quand on prend du temps d'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute de ce réseau, un réseau un peu invisible, parce qu'on apprend à créer son réseau, on apprend à noter, voilà, je connais un tel qui connaît un tel, etc. On dit qu'on connaît cette personne, machin, tout ça. Il y a des tips qui sont super intéressants autour de ça.
Ouais, entre toi et quelqu'un que tu veux rencontrer, il y a maximum 7 personnes.
Voilà, donc c'est assez chouette.
Et tu peux contacter
hier,
tout le monde.
Hier, j'étais à Paris, j'ai rencontré mon ami Adrien qui sortait de boire un café avec Mathieu Kachovitch.
Okay.
Et ça, je trouve ça excellent.
Ouais.
Tu vois, parce que ça
tu
permet.
Tu es si proche de Mathieu.
Mais en plus, tu as vu, hein, physiquement, on a presque le même âge. J'ai vérifié, il a 58 ans, donc il est quand même beaucoup plus vieux. Mais grosso modo, je trouve que voilà, je suis maintenant dans le réseau, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, bon, tout ça pour moi, c'est magique, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort.
Tu me parlais d'une citation de Bobin.
Ouais. Bah ça tombe bien, j'étais à Paris hier. Bah oui, tu veux la lire?
Moi, ce que j'aime à Paris. C'est la campagne.
Ah ouais, j'adore ça. J'adore, oui. J'adore être dans la foule, j'adore être dans le monde. Mais voilà, il me suffit d'un arbre, il suffit que moi je sois moi-même la campagne quand je suis en pleine gare de Lyon, par exemple. Et ça, je trouve ça assez magnifique. Et de croiser un petit parc, de respirer à un moment donné. Et les deux, j'ai besoin des deux. Et je pense que je ne suis pas le seul, voilà. Parce que la solitude, c'est quelque chose qui peut être choisi, mais qui est souvent subi. En fonction de voilà, comment on appréhende les choses. Et la masse, les gens, les aéroports, les grandes autoroutes, les bouchons, etc., bah, c'est aussi souvent subi, mais un mix des deux, un bon équilibre, c'est vraiment quelque chose de chouette. Voilà. Mmh. Et moi, j'aime bien être ce petit buisson là, qui se balade dans les métros parisiens. Quoi. Voilà.
Bah, ce petit buisson, nous, chez Sonnaissance, on l'a rencontré. Alors, il y en a un qui l'a rencontré plus tôt que l'autre. C'est Ludovic.
Oui, on s'était rencontrés il y a une vingtaine d'années en lien à un voyage au Sénégal que j'avais fait pendant d'un long voyage, mais on n'avait pas eu des échanges si réguliers jusqu'à ce que
bon, on crée Sonnaissance en fait, ouais. Et qu'on se fasse un week-end dans ton magnifique lieu également. Mm-hmm. Et puis quand ça a été le moment de créer la gouvernance aussi de Sonnaissance, et ben on a fait une liste des personnes qui nous semblaient dans la même vibe que nous. Et c'est comme ça que Ludovic est venu te voir. Parce que la question d'après, c'est ton lien avec Sonnaissance.
Magnifique. Ben, belle transition, c'est tout à fait ça, effectivement. Ouais. Vous m'avez sollicité pour prendre un peu la température, avoir un avis sur ce projet, donc de créer un incubateur dans le Val-de-Saône, orienté économie sociale et solidaire. Et du coup, moi, ça m'a fait trop plaisir et ça m'a beaucoup parlé. Et j'avais effectivement, je t'avais rencontré Elisabeth sur le week-end explorateur du vivant qu'on avait fait du coup à la maison avec une constellation des êtres qui avait été magnifique. Je me souviens encore de notre ânesse là qui rentrait dans le cercle au milieu de tout le monde et qui était là, qui était posée. Donc voilà, se rassembler entre humains et donc entre êtres avec un petit âne qui vient se balader au milieu, c'était assez chouette. Et puis du coup, bah oui, cette proposition, elle a été vraiment bien accueillie. J'ai été vraiment ravi. Et puis de rencontrer aussi les autres stratèges de ce comité du coup de gouvernance, ce comité stratégique autour de Sonnaissance. Ça a été une belle révélation, un beau cadeau en tout cas que vous m'avez fait. Et merci.
Un cadeau partagé. Et puis tout récemment, du coup, tu t'es inscrit.
Bah oui, oui, oui. Du coup, je me suis inscrit dans le programme Entrepreneur de sa vie pour être accompagné. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas tant dire d'être accompagné sur la partie création d'une activité, même si j'en ai carrément besoin. Mais ça veut dire aussi de lâcher prise sur ce que j'ai un peu toujours fait, c'est-à-dire ben, vivre sur mes acquis, croyant savoir, être sachant de ci ou de ça de par mon expérience, mais de ne pas lâcher le fait que, ah bah tiens, si j'étais guidé par quelqu'un qui, du coup, ben, aura aussi, lui, le temps et qui aura la fonction de me guider. Et ça, pour moi, ça a été une belle réflexion. Et ça m'est venu, en plus, à la fin de mon contrat, à la fin décembre, à l'Oasis, dans la ferme d'insertion de Glaizé. Ça m'est venu, au niveau du cœur, ça m'est venu comme une évidence de me dire, bah oui, bah vas-y, laisse-toi porter. Voilà, j'ai cotisé à mon CPF pendant quand même pas mal d'années, parce que j'ai quelques fiches de paye qui sont à la maison. Et là, je me dis, bah oui, pourquoi pas, comme tu dis, pour une fois, tu vas pas forcément, toi encore, recréer des groupes, des associations, des machins, fais-toi guider, quoi. Voilà.
Donc, sachant voilà. Que tu participes déjà au mouvement depuis le début.
Oui, et donc je sais aussi pourquoi j'ai choisi de me faire guider par toi et par Sonnaissance, parce qu'il y a un vrai écosystème, il y a une vraie tribu maintenant qui existe, oui. Et que je salue au passage. Et voilà, ça c'est chouette, ça c'est un cadeau aussi.
C'est clair.
C'est aussi un cadeau de t'avoir dans la tribu et d'avoir ton énergie à ce niveau-là, en plus du niveau stratégique sur lequel tu nous aides depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant.
Merci.
Comment tu te vois dans 5 ans ?
Ah oui, comment je me vois dans 5 ans ? Ben, je me vois vraiment... J'ai pas trop de mal à imaginer le lieu, un lieu où il fait bon vivre, où je pourrais vraiment accueillir tout le monde au cœur de la nature. Ce lieu, ben, il existe presque déjà. Et voilà, j'emploierais vraiment, moi, le mot lieu de vie, parce que ce que je vois et ce que j'ai créé en Afrique en 25 ans aussi... Et on va pas en parler parce que là, ça prendrait des heures. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment un lieu de vie.
On fera une autre émission, Espace, si tu veux.
Et pour résumer, en quelques mots, c'est le vivre ensemble. Voilà. Et je crois qu'il faut rien aujourd'hui pour arriver à vivre ensemble, à part le lieu. Voilà. Si on est au même endroit, au même moment, on peut vivre ensemble. Et ce qui se passe dans un lieu qui est un peu déconnecté de la grande route, du cœur du village ou de la ville, et voir des réseaux aussi... et des ondes, et bien du coup, bah voilà, il se passe ça. On est ensemble, on vit ensemble, on passe du temps ensemble, donc voilà.
Merci Benjamin.
Merci à vous.
Courant porteur.
Initiative et résilience d'un territoire.
Encore merci Benjamin pour ton parcours riche, pour ta contribution, collaboration avec nous et puis pour tout ce qui est en cours et à venir. On arrive à la deuxième partie de l'émission, la partie savoir. Alors, comme je l'annonçais en introduction, on va parler d'un incontournable de la création d'entreprise, le modèle économique. Incontournable aujourd'hui, pourtant le modèle économique ou business model, c'est une notion relativement récente dans le langage de la création, du management. La réalité, elle existe depuis toujours, hein, depuis qu'on fait du commerce. Mais c'est un concept qui a été amené il n'y a pas si longtemps. Donc le modèle économique, en quelques mots, c'est déjà comment une organisation crée, délivre et capte de la valeur. Dans les années 90, et même avant les années 90, le concept n'existait pas vraiment. On parlait plutôt de stratégie, de structure de coût ou de chaîne de valeur. Et les références dominantes à cette époque-là, c'était Peter Drucker, qui parlait de la mission de l'entreprise et de la création de valeur, ou de Michael Porter, qui parlait de l'avantage concurrentiel et de chaîne de valeur également. Mais l'idée implicite était déjà là, c'est comment une entreprise finalement gagne de l'argent. Ce n'était pas encore conceptualisé comme un objet de design. Design, c'est comment on modélise, comment on dessine, comment on fait un concept qu'on dessine en fait les différentes parts d'un fonctionnement d'un modèle. Et donc c'est en 90 que le terme apparaît sous le nom de business model. Il apparaît avec la révolution Internet et les startups de la première vague web. Donc les investisseurs demandent à ce moment-là, c'est quoi votre business model ? Parce que beaucoup de startups ont une technologie et ils ont le vent en poupe et plein d'idées. Mais par contre, il n'y a aucune logique de revenu clair. Et donc le concept sert alors à expliquer qui paye, pourquoi et comment. Et c'est dans les années ensuite 2000 que ce concept va se formaliser, devenir un vrai outil de conception avec une référence majeure qui est Alexander Osterwalder, avec le business model Canvas, que tout le monde connaît dans le monde de la création
c'est
aujourd'hui.
L'incontournable dans toutes les formations de création d'activité, n'est-ce pas?
Exactement. Donc le fameux Canvas, ou Canva, selon comment vous voulez le prononcer, qui a 9 blocs. Hein, la proposition de valeur, les segments de clientèle à qui on s'adresse, quels sont les canaux de distribution de communication, les relations clients, les sources de revenus, quelles sont vos ressources clés et vos activités clés, les différents partenaires et évidemment la structure de coût. C'est la première cartographie standardisée de ce moteur de l'entreprise. Le modèle économique, la définition la plus simple pourrait être la manière dont une organisation crée de la valeur et en capte une partie pour survivre. Elle tourne autour de 3 questions centrales. Quelle valeur est créée ? Donc, par exemple, quel problème ça résout ? Comment ça va apporter un bénéfice ou transformer une situation ? La deuxième question, c'est pour qui ? Donc, un public ou un segment clientèle ? Comment l'organisation est-elle rémunérée ? Donc, ça peut être du paiement direct, de l'abonnement, des commissions, de la publicité, du financement public, des dons, etc. Deux exemples simples. Une boulangerie, sa valeur, c'est qu'elle apporte du pain frais. Ses clients, c'est les habitants. Et puis, ses revenus, c'est de la vente directe. Et puis, on a un autre modèle, Spotify, par exemple, qui apporte la valeur, c'est un accès à la musique. Ses clients, ça va être des auditeurs. Et ses revenus, ça va être des abonnements et surtout de la publicité. Enfin, je ne sais pas si c'est surtout, d'ailleurs. Il faudrait voir le rapport. Le moment où le modèle économique devient central, c'est le moment où il y a la bulle Internet. Donc, 3 grandes transformations. Internet, parce que la valeur ne peut être créée sans vente directe. Enfin, à partir de ce moment-là. La valeur peut être créée à partir de... sans vente directe. Pardon, je vais y arriver. C'est l'époque où Google apparaît avec le système des publicités et Facebook qui partage de la donnée et de la publicité également. Deuxième élément de cette période, c'est l'innovation de service. On ne vend plus seulement un produit, mais un usage et un accès, comme Netflix qui vend ses abonnements ou Michelin qui ne vend plus des pneus, mais des solutions de mobilité. Et également, l'entrepreneuriat start-up. Ces start-up, elles doivent être testées rapidement, elles doivent tester leur hypothèse de valeur et leur hypothèse de revenu. Et donc, le modèle économique devient une hypothèse expérimentale. Cependant, ce concept, il a des critiques. On critique le fait que ce soit quelque chose de trop mécanique, qui réduit l'entreprise à un système de capture de valeur. Et on oublie souvent le sens, la mission et la contribution sociétale, donc l'humain, quelque part, aussi. Et à quel objet ça sert, en fait. Et ça va nous ramener à quelque chose de plus grand que soi, qui est ce qu'on essaye d'amener aujourd'hui. Donc il y a quelques alternatives conceptuelles. On parle de plusieurs approches qui tentent de dépasser ce modèle économique pur et classique. Il y a le modèle de création de valeur qui est utilisé en économie sociale, qui répond plutôt à la question « quelle est la valeur globale que nous produisons ?» Et elle n'est pas seulement financière. Également, on peut s'appuyer sur la théorie de la valeur partagée qui est proposée par Michael Porter et Mark Cramer, dont le principe, c'est qu'une entreprise doit créer une valeur économique et une valeur sociale. On peut parler également du modèle régénératif dans l'économie écologique, où l'activité doit restaurer des ressources. Enfin, le modèle de contribution, qui est de plus en plus utilisé dans la notion de commun, d'open source, ou d'économie contributive, dont les grands exemples sont Wikipédia et Linux. Il y a également une grande tendance aussi autour de ce business model, qui est le lien à un modèle de trajectoire de vie. Depuis quelques années, chez certains chercheurs et entrepreneurs, on a un déplacement du point de départ. On ne commence plus par le modèle économique, mais par un modèle d'existence ou de trajectoire de vie. C'est particulièrement visible dans les recherches sur l'entrepreneuriat existentiel. Oui, oui, il y a un mouvement qui s'appelle entrepreneuriat existentiel.
Ça, je ne savais pas.
C'est pas mal.
Et l'entrepreneuriat de sens. Donc, dans le modèle classique, c'est l'entreprise d'abord. On va avoir une idée de produit ou de service avec un marché, un modèle économique, donc le moteur, une organisation, où le fondateur finalement s'adapte ensuite à la structure. On est dans un schéma marché, entreprise, vie. Donc la vie personnelle est souvent subordonnée à la logique économique. Le basculement, ça va être la vie d'abord. C'est d'autant plus présent dans tous les chiffres que tu disais, Benjamin, sur la perte de sens ou le besoin de sens aussi de son projet professionnel et entrepreneurial. Et la question, ça va être quelle vie est-ce que je veux habiter? Et puis, quelles activités la nourrissent? Et quelles formes économiques peuvent la soutenir? Dans ce système-là, le schéma devient vie, contribution, activité, et en découle le modèle économique. Le modèle économique, là, n'est plus le cœur, mais le support, la forme à sa viabilité.
Pour assurer effectivement la durabilité du mode de vie qu'on a choisi.
Exactement. Et puis, les auditeurs peut-être s'en souviennent, mais pour nous, l'entrepreneuriat durable, c'est autant une personne, un entrepreneur qui dure, qu'un entrepreneuriat, une activité qui dure également dans le temps.
Oui.
Quelques références qui sont extrêmement intéressantes à aller explorer. Sarah Saravati, qui a écrit, conceptualisé la théorie de l'effectuation. La théorie de l'effectuation, c'est une théorie de décision dans l'incertitude. Mais ce qu'on peut dire de cette théorie au tout départ, c'est qu'elle montre que les entrepreneurs ne commencent pas par un plan, mais par qui je suis, ce que je sais et qui je connais, encore dans la relation, dans la rencontre. Puis l'entreprise se construit à partir de ses ressources existentielles. Je vous mets en référence un livre en français, parce que c'est une auteure qui écrit en anglais, qui est un livre d'Alain Fayol et Toutain, qui sont les théories de l'entrepreneuriat chez Duno. Dans ce livre, les auteurs présentent notamment l'effectuation, mais également les approches cognitives de l'entrepreneuriat et différentes théories économiques. Alain Fayol est une référence majeure en recherche francophone sur l'entrepreneuriat. Je vous mettrai également un lien vers une vidéo. À la minute 17-27, vous avez l'explication des principes d'effectuation. Chez Schumpeter, Joseph Schumpeter, l'entrepreneur, est vu comme une transformation. Il décrit l'entrepreneur comme quelqu'un qui transforme le réel en introduisant de nouvelles combinaisons. Mais cette transformation part souvent d'une vision intérieure. Bill Olley, lui, il est sur l'entrepreneuriat discipliné. Il dit que dans ses approches très pragmatiques, parce que il parle du MIT, il reconnaît aujourd'hui que le fondateur, sa motivation, son identité sont des variables structurantes. Une notion émergente, c'est le life design. On retrouve cela dans les approches de design de vie, donc comment on dessine sa vie. Les références sont Bill Burnett et Dave Evans, avec un principe, c'est qu'on peut dessiner sa vie comme on pourrait designer un projet. Et donc, les éléments qui sont dedans, ça va être le travail, donc la contribution, à quoi on a envie de contribuer, quel est notre équilibre et quel est le sens. Et j'en arrive au parallèle avec notre approche entrepreneur de sa vie, puisque dans notre programme, on articule une première étape qui est la connaissance et la conscience de soi, qui je suis, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me motive et qu'est-ce qui va me tirer vers le haut. Un deuxième élément qui va être trajectoire de vie et des lignes de temps personnelles. D'où je viens, qu'est-ce qui me compose et avec quoi je me compose en fait. Avec quoi je compose ma vie dans la suite. Une place dans la trame collective, bah, c'est quoi ma raison d'être dans mon écosystème relationnel et local, mais aussi dans la société. Et puis, pour la contribution, c'est à quoi j'ai envie de contribuer et à quels besoins je réponds. C'est quoi qui me touche. Pour enfin arriver à l'activité économique qui va être, quelle forme tout ça va-t-il prendre en fait. Et quand on dessine nos offres dans le parcours entrepreneur de sa vie, on fait appel à la notion de parcours utilisateur, UX design pour ceux qui connaissent l'informatique. Et on parle d'expérience que l'on a envie de vivre et de faire vivre. C'est pas juste qu'est-ce que je vais faire vivre aux gens, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre aussi. Parce que c'est à cet endroit-là qu'on trouve notre identité, le sens qu'on veut y mettre et notre singularité, puisqu'on est vraiment sur un entrepreneuriat de singulier.
Et dans le cadre du coup d'entrepreneur de sa vie, effectivement, on amène chacune à se poser ses questions et à mettre dans une page avec des carrés, des flèches. On va vraiment dans le métier, dans le cambouis des interactions avec les fournisseurs, avec les clients, et de manière à vraiment pouvoir comprendre. Quel est le métier et puis voir les voilà comment l'améliorer ou comment le rendre encore plus cohérent avec ce qu'on veut offrir au monde.
Tout à fait. Et nous, on utilise un modèle économique tout particulier qui est le modèle économique circulaire de l'entreprise Circulab. On a la chance d'avoir cette structure Circulab que je vous invite vraiment à aller voir. On vous met le lien également. Ils ont développé plusieurs outils, dont la chaîne de valeur et ce modèle économique circulaire. C'est du libre de droit. Donc, on a le droit d'utiliser leurs ressources en les mentionnant. Et on est heureux de pouvoir saluer leur travail. Mmh. Donc, ils ont créé un outil qui s'appelle Circular Canva, dont l'objectif est de nous aider à concevoir des modèles économiques durables et résilients. Ce circular Canva nous aide à repenser le modèle économique ou des projets afin de créer des impacts positifs et durables. Et ce circular Canva permet de construire un modèle économique, un projet, un produit, un service, jusqu'à une relation client. Permet également d'analyser la création de valeur, les flux entrants et sortants, d'identifier tous les impacts. Avec cet outil, on peut prendre en compte le système en entier. On est vraiment dans de la systémique. Pour concevoir une solution qui répond à tous les besoins en créant les impacts positifs que l'on souhaite. Donc on est vraiment sur un état d'esprit systémique et du design pour de la régénération. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce circular Canva ? On va avoir tous les éléments effectivement du classique modèle économique, mais des dimensions écologiques et systémiques. Donc on part de la mission. Quelle est la mission à laquelle l'organisation répond, qui fait référence à plus grand que soi, et quels sont les besoins essentiels à satisfaire. On peut également à cet endroit-là se référer aux objectifs de développement durable de l'ONU, si on veut. C'est d'ailleurs ces objectifs de développement durable qui sont repris dans les stratégies de toutes les grandes entreprises aujourd'hui, et qui sont déclinés dans leur organisation par la suite. Et donc on va avoir toujours la proposition de valeur, donc c'est quoi la valeur qui est créée pour nos clients, pour la société et l'environnement, donc c'est pas juste pour les clients. Ensuite, on va avoir pas seulement des clients, des fournisseurs, on est vraiment dans une relation partie prenante, donc on est vraiment sur de la coopération. Donc on va intégrer toutes les collectivités, les communautés locales, les écosystèmes naturels et des partenaires de réparation, de recyclage. On reprend ici les principes de l'économie circulaire ou de l'économie régénérative. On a ensuite les flux. On va s'intéresser au flux de ressources, qu'est-ce qui est consommé, qu'est-ce qui passe par l'entreprise, des matières, de l'énergie, de l'information et évidemment de l'argent. Quatrième élément, ça va être des boucles de circularité. Dans ce modèle économique, on a la notion d'usage suivant. Donc comment les ressources sont réemployées, comment elles sont réparées, recyclées, transformées. Alors, je précise que dans l'économie circulaire, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc on est vraiment dans de l'éco-conception dès le départ pour produire, si on est sur du produit justement, quelque chose de réparable et qui va durer dans le temps.
Et là-dessus, vous pouvez réécouter notre émission qu'on a faite sur l'économie régénérative qui parle bien de tout ça.
Et dans chaque grande étape de ce modèle économique, on va avoir la notion d'impact. C'est-à-dire que le modèle économique, on peut le faire à un instant T pour une entreprise à venir ou existante. Et dans cet instant T, on va voir quels sont les impacts qui sont générés, impacts sociaux, impacts environnementaux, impacts territoriaux. Et donc, ça permet de se projeter vers une meilleure... des impacts plus positifs, voire qui vont réparer en fait des systèmes. Donc pour résumer, on va dire qu'est-ce qui change par rapport au modèle économique classique. Donc le modèle économique classique va être centré sur l'entreprise, là où le circulable est centré plutôt sur l'écosystème. D'un côté, on a flux linéaire, de l'autre, on va avoir flux circulaire. D'un côté, nous avons client-fournisseur, de l'autre côté, des parties prenantes. D'un côté, la valeur financière et de l'autre côté, des valeurs multiples. Une optimisation interne pour de la coopération interne et externe. Peut-être dire que le moment historique, un petit moment historique pour l'économie circulaire, c'est que ça a été popularisé notamment par Hélène MacArthur, la Hélène MacArthur Foundation, exactement, qui diffuse l'idée que l'économie doit fonctionner comme un écosystème naturel. Voilà pour ce modèle économique. Une petite conclusion ?
Oui.
Donc le modèle économique, il est né comme un outil pour comprendre et poser ce que c'est que le moteur d'une entreprise. À l'origine, on avait le modèle économique Canvas, dont l'objectif était simple, clarifier comment une entreprise crée, délivre et capte de la valeur. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'on avait des nouveaux défis économiques et sociaux qui exigeaient d'aller plus loin. De besoins principaux se sont dégagés. Donc le premier, ça va être comment on va créer des impacts positifs et durables dont le modèle économique doivent créer une valeur tangible pour leurs bénéficiaires et leurs parties prenantes sans épuiser les ressources, voire en régénérant ce qui a été utilisé ou abîmé. Le Circular Canvas de Circulab, lui, en est un exemple, puisqu'il permet de construire des entreprises résilientes, circulaires et régénératives capable de générer des impacts sociaux et environnementaux positifs. Il en existe d'autres, je vous invite à aller les voir. Le deuxième élément, ça va être donner du sens et inscrire l'activité dans une trajectoire de vie. De plus en plus, les créateurs cherchent à aligner leur activité avec leur raison d'être, leurs compétences et leurs expériences de vie. Cela dépasse le simple plan financier. Il s'agit ici de créer une activité viable et cohérente avec ce qui est important pour la personne. Ces deux besoins ont conduit à l'émergence de modèles économiques sociaux et à impact, qui ne se limitent pas à une logique de profit, mais qui cherchent à réconcilier viabilité économique, valeur pour les parties prenantes et sens pour l'entrepreneur. En résumé, le modèle économique moderne ne se définit plus seulement par un produit ou un revenu, mais par la capacité d'une activité à répondre à un besoin plus grand et générer un impact positif et qui fait sens.
Et oui, voilà qui est bien résumé et
magnifique.
Une brique essentielle pour entreprendre avec plus de conscience et plus de sens.
Et avec des beaux impacts.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci Elisabeth.
À tout bientôt.
Merci Ludo.
Merci.
On retrouve vos coordonnées, les coordonnées dans la page de l'émission pour joindre Benjamin.
Eh bien, par mail éventuellement, donc benjamin.jair@gmail.com.
Très bien. On remettra tes coordonnées
avec plaisir
sur la page. À tout bientôt.
À tout bientôt.
Vous venez d'écouter Courant Porteur, initiative et résilience d'un territoire.
Une émission mensuelle pour faire émerger un mieux vivre ensemble résilient dans le Val-de-Saône. Vous pouvez retrouver l'émission et ses références sur radio-calade.fr.
Et pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site sonessence.fr, SAONE2SENCE.